Unreroute the rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver. Deuxième partie de Mythe de Boss. Merci encore une fois à Daniel Guggenheim. Alors vous m'avez manqué, hein, Serge Bézère, vous allez bien ?
C'est vrai, je vous ai manqué.
Ah mais ouais, franchement. Non, mais c'est très très bien avec Laurent et je suis ravi avec
Laurent.
Vous
écoutez quand même un petit peu.
Et Raphaël, c'est vrai, vous avez écouté la semaine dernière dans l'avion.
Vous me voyez me débattre. Moi, j'ai écouté dans l'avion et vous me voyez débattre avec la technique aussi. Hein.
Oui, ouais, tout à fait.
Tout ce que je peux. Hein.
Non, bravo. Non, bravo, mais vous, je suis content de vous voir en tous les cas. D'autant plus qu'on a un invité exceptionnel aujourd'hui. Je vous laisse le soin de nous le présenter.
Alors, il s'appelle Pierre Himpler, il est avocat. Il est avocat pénaliste et avocat, on dit pas étrangiste, on dit
spécialisé en droit des étrangers. Qui est un droit administratif.
Voilà.
On va se rapprocher bien près de l'Esquimau, cher maître. Merci beaucoup. On vous appelle comment? On vous appelle maître? On vous appelle monsieur Pierre Himpler? Comment on fait pour aujourd'hui?
Aujourd'hui, Pierre.
Voilà, cher Pierre. Alors, en tous les cas, on est ravis de vous recevoir.
Plaisir partagé.
Voilà, on a reçu déjà quelques...
Pour différentes raisons.
Voilà, en plus, on a reçu déjà quelques... On en parlera. On a reçu déjà quelques avocats dans l'émission.
Dont un grand ami à moi.
Voilà, donc c'est bien. Mais votre particularité à vous, cher Pierre Himpler, c'est que vous faites du pénal et le droit des étrangers. Ça, on n'avait pas encore eu, puisqu'en pénal, forcément, ça fait un peu feuilleton, série télévisée.
Il y a de la concurrence, ça,
voilà,
c'est clair.
Et vous aurez plein de choses, j'imagine, et d'aventures, d'anecdotes à nous raconter.
Il y en a de plus en plus, même, hein, quand on voit les nouvelles aujourd'hui en Belgique, avec l'ensemble de ce qui se passe avec la drogue, etc.
Oui, il y a...
C'est un job qui a de l'avenir.
Il y a une demande, ouais, clairement.
On va faire comme on fait chaque semaine, cher Pierre Himpler. On va commencer par votre parcours. Alors, j'imagine que sur la place à Bruxelles, il y a beaucoup. Rapprochez-vous si vous voulez bien près du micro. Il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui vous connaissent, mais il y a une partie qui vous connaît pas. On va peut-être demander de vous présenter et puis de nous raconter votre parcours.
D'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité. C'est un réel plaisir, voire un honneur d'être invité chez vous pour différentes raisons. La première, c'est que je suis un auditeur habituel, fidèle à vos émissions. J'aime écouter Radio Judaïka, parce que d'abord j'aime la musique israélienne. Et en plus, j'aime vos émissions qui traitent de la problématique du Moyen-Orient. Et c'est quand même quelque part intéressant d'avoir un autre point de vue que celui de la RTBF. Mmh. Point de vue peut-être un tout petit peu plus objectif.
C'est vous qui le dites, hein. Nous on va pas se permettre. Hein. On vous
laisse. Oui, mais moi je peux me le permettre. Ouais. Voilà. Un peu plus objectif et un peu plus réaliste que ce qu'on entend sur les ondes de la RTBF. Donc quand on veut vraiment être informé sur ce qui se passe au Moyen-Orient, au Proche-Orient, c'est intéressant d'écouter Radio Judaïka. C'est la première raison pour laquelle je suis honoré d'être invité. La seconde raison, vous l'avez soulevé, Olivier, c'est que j'ai d'autres confrères qui ont été invités, et notamment Danis Pretels, qui est un tout grand ami. C'est une amitié de plus de 25 ans. Dès que j'ai commencé au barreau, il m'a pris un peu sous son aile. Jusqu'à aujourd'hui, il me donne toujours d'excellents conseils, et je lui en suis très reconnaissant. Je profite de l'occasion pour lui rendre hommage, parce que c'est quelqu'un de fantastique. D'abord, un grand avocat, et qui a fait beaucoup pour moi, pour ma carrière. Il m'a introduit dans des dossiers dans lesquels j'aurais jamais dû intervenir, et grâce à lui, j'ai pu participer à des procès importants, très jeune.
Et puis, vous avez une grande passion en commun, vous et Maître Spretels.
Le foot, ouais, effectivement. Et le tennis, parce qu'on a joué au tennis ensemble pendant des années. Le foot et le tennis, effectivement, ça, c'est une passion commune. On a été voir beaucoup de matchs ensemble à Anderlecht, et un seul jusqu'à présent à l'Union Saint-Gilloise, puisque, comme vous le savez, il a changé de club. Mmh. Bon, moi, je suis resté fidèle à Anderlecht, mais c'est avec plaisir que de temps en temps, je vois un match avec lui à l'Union Saint-Gilloise. Et un autre invité, qui est un ami d'enfance que vous avez eu à cette émission-ci, Pascal Gerken.
Tout à fait.
Voilà.
Qui nous a raconté.
Président du YPO.
Une belle histoire, notamment une histoire familiale, qui une partie de sa famille a caché des juifs, en tous les cas a sauvé des juifs, et son grand-père a été reconnu il n'y a pas longtemps comme juste parmi les nations. Je me rappelle qu'il était très ému et que nous l'étions aussi, effectivement.
Je peux vous confirmer qu'il a toujours été très proche de la communauté. Et qu'il a toujours pris la défense de la communauté juive quand il le pouvait. Ça, c'est une certitude. Et la troisième raison pour laquelle je suis heureux de venir, figurez-vous que ça fait quasiment, pas jour pour jour, mais à deux ou trois mois près, la toute première émission de radio que j'ai eue, c'était chez vous, Radio Judaïka. Je sais de l'Orgat encore à l'époque. J'avais été invité donc il y a 25 ans par mon ami Moïse Rahmani que vous avez dû connaître, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, et qui avait eu la gentillesse de m'inviter suite à une plainte que j'avais déposée au nom de mes clients pour crime de droit international contre Laurent Désiré Kabila, qui devait arriver en voyage officiel en Belgique une semaine ou une dizaine de jours plus tard. On peut en parler si ça vous intéresse, parce que je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant ou qu'on parle de mon parcours.
On va parler de votre parcours, mais ce qui est quand même aussi intéressant, c'est que vous avez aussi, vous, des attaches en dehors de ça, par rapport à votre famille. Et je trouve que c'est bien d'en parler aussi, le fait qu'on soit ici à Radio Judaïka, ça vous permet de... peut-être aussi dans votre parcours de nous raconter cet épisode.
Oui, tout à fait. Parfait.
Allez, dites-nous tout. Vous venez d'où ? Vous êtes belge, bruxellois ?
Oui, je suis belge, bruxellois, né à Etterbeek. J'ai fait mes études, j'ai commencé au Collège Saint-Michel, puis j'étais à l'Athénée Robert Cato. J'ai rencontré beaucoup de nos amis communs.
Un vrai bruxellois, donc.
Voilà, tout à fait. Je finis à Saint-Hubert, j'ai fait mes études à Lucel, Université catholique de Louvain. Très, très, très belles années, beaucoup de tolérance, beaucoup de festivités, beaucoup de sorties, beaucoup de sport à haut niveau, beaucoup de rencontres intéressantes. Je crois que j'ai commencé à tisser quelque part quelques réseaux qui sont devenus mes premiers clients par la suite, et des gens vraiment de tous horizons.
Et pourquoi une carrière d'avocat, c'était prédestiné? C'était...
Mon père était avocat, il a arrêté il y a 2 ans maintenant. Donc il a eu plus de 50 ans de carrière.
Vous avez travaillé ensemble? Vous étiez dans le même cabinet? Comment ça se passait?
Ouais, bonne question.
C'était un peu le but.
Non, ça jamais. Mais c'était un peu le but, effectivement, c'est que je reprenne à terme son cabinet et qu'on travaille ensemble. Bon, rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas facile de travailler avec son père.
Dans aucun... Ouais, pour personne, en tout
pour,
cas.
Pour personne. Et bien, bon, c'est quelqu'un de brillantissime, qui avait une forte personnalité, et c'était pas moi, jeune avocat, qui allait lui apprendre son métier. Mais bon, j'avais aussi ma personnalité, ma façon de voir les choses. Donc, très rapidement, j'ai ouvert mon propre cabinet, alors que j'étais déjà stagiaire, j'étais en fait stagiaire chez lui.
On va reprendre, hein, parce que là, on est passé directement à l'ouverture de votre cabinet. Donc, vous faites vos études d'avocat convaincu que c'est ça que vous voulez faire du départ? Il n'y a rien d'autre qui vous a chipoté en
pas
vous
du
disant
tout.
Tiens...
Non, pas du tout. Je l'ai fait parce que j'ai fait des études de latin et grec. J'étais plutôt bon en latin, en grec, en français, et très mauvais en sciences et en maths. Et
pourtant, donc, à Cato, il faut être bon en maths. Hein.
Oui, c'est pour ça que j'ai quitté Cato. en cinquième. Parce que j'étais en latin et grec à Cato, et pour vous dire un peu le niveau, je me rappelle qu'en troisième latin et grec, donc on avait le minimum de maths possible, je crois que c'était 3 heures à l'époque. L'examen de Noël, c'était extrait de l'examen d'entrée à Polytech.
L'examen des plaisirs d'hiver. Hein.
Oui, voilà, exactement. J'ai pas eu beaucoup de plaisir à Cato, franchement. C'est pas les plus belles années de ma vie. Et donc vous voyez un peu le niveau. En troisième latin grec, on vous donne un examen extrait de l'examen d'entrée de Polytech. Donc c'était vraiment très dur. Et effectivement, surtout en maths et en sciences, donc c'était pas fait pour moi.
Donc quoi, vous décidez...
Un peu par défaut. Et puis, parce que mon père était avocat, j'ai fait le droit. J'ai adoré la vie à Louvain-la-Neuve, un peu moins les études. Je suis très critique également par rapport à la manière dont on nous a enseigné le droit, parce que c'était ultra théorique.
Toutes les études, hein, en Belgique d'ailleurs, droit ou autre chose, non?
Peut-être, mais moi j'ai une amie qui à l'époque a fait le droit à l'EFEC. Alors, c'était pas le niveau universitaire, mais je trouvais ces études mille fois plus intéressantes que celles que j'ai eues.
C'est drôle, hein, parce qu'on est, les gens qui ont eu un parcours universitaire se disent souvent, ben, tiens, en définitive, on a passé beaucoup de temps à réfléchir, ou à regarder, ou à apprendre, ou à emmagasiner des choses, et c'était pas très pratique, où il y a
absolument pas pratique.
Pas grand chose.
Écoutez, quand je me rappelle en droit commercial, en troisième licence, 12 syllabus, où on s'interroge même sur les notes infrapaginales. Alors, on peut être plus ou moins prêt, je dis bien plus ou moins, le jour de l'examen, mais 15 jours après ou 10 jours après, vous êtes oublié.
Et,
voire même l'essentiel, c'est complètement absurde. Donc c'est vraiment du bourrage de crâne, et on élimine les gens sur du par cœur, et également sur la chance. Et ils ont tué des Mozart. Moi, je tiens à le dire, j'ai eu des amis qui étaient brillantissimes, qui étaient vraiment très intelligents, qui auraient pu devenir des grands avocats, qui sont tombés sur la mauvaise question. Parce que sur 12 syllabus, vous avez deux questions. Il y en a une des deux que vous ne connaissez pas, vous êtes déjà moins que 10. C'est déjà sûr et certain, parce que vous n'allez jamais faire 10 sur 10 à la seconde. Donc, c'est dommage. Et par contre, vous avez des gens très moyens, qui ne sont d'ailleurs pas devenus avocats ou des avocats médiocres, qui ont bien réussi leurs études, parce qu'ils avaient une mémoire exceptionnelle et qu'ils ont pu restituer, leur acquis.
Donc
c'est dommage. Donc, je suis très critique par rapport aux études que j'ai connues.
Quand vous terminez vos études, vous passez sur directement?
Directement, métier d'avocat. Voilà, métier d'avocat.
Dans un cabinet?
A priori, avec mon papa. Et puis, après un mois, je me suis rendu compte qu'il valait mieux voler de mes propres ailes. Et avec mes petites économies que j'avais pu avoir en jouant au foot à Louvain-la-Neuve, je peux vous expliquer comment ça s'est passé, eh bien, j'ai ouvert mon cabinet et très rapidement, j'ai eu des clients, et principalement une clientèle congolaise, d'origine congolaise, parce que je fréquentais beaucoup les Congolais grâce au foot à Louvain-la-Neuve. Et un milieu très, très spécifique, c'était le milieu mobutiste. Et le régime est tombé en 96, alors que je venais de devenir avocat, et ils m'ont fait confiance. Ils m'ont consulté pour des problèmes de papier dans un premier temps, puis pour d'autres problèmes. Et je leur en suis vraiment particulièrement reconnaissant, parce que mes amis belges ne m'ont pas fait confiance directement. Mmh. Ils ont attendu quelques années.
Il n'y a pas vraiment eu de chemin finalement compliqué, hein, Pierre Himpler. Vous saviez, prédestiné, vous avez fait avocat, et aujourd'hui vous êtes content.
Je suis content, mais je ne savais rien.
Le démarrage, c'est intéressant, parce que se dire on démarre grâce à des potes quelque part, ou à
tout
des
à fait.
Gens...
à des relations faites pendant l'université.
Les potes et leur famille.
Avec un coup de pouce de l'histoire.
Voilà, exactement. Et un coup de pouce de l'histoire, exactement. Donc il y a aussi une dimension de chance, une notion de chance.
Claire, mais pour tout le monde.
Met le pied à l'étrier.
Pour tout le monde.
Mais à ce moment-là, vous êtes déjà... vous n'êtes pas pénaliste? Ou si?
Ma vocation, effectivement, au plus profond de moi, c'est le droit pénal. Mais très rapidement, j'ai une demande en droit des étrangers, donc je fais les deux matières.
On va revenir.
Et pour être honnête avec vous, pour en finir avec mes études, mes premiers clients, quand ils viennent me consulter, ils en savent plus que moi sur le problème qui les agite. Donc je les écoute beaucoup, parce qu'ils se sont déjà renseignés. Et c'est pas normal quand même, on fait 5 ans d'études et on ne connaît rien, on ne sait pas faire une requête. On ne sait pas comment s'adresser à un président de tribunal, on ne sait pas faire de conclusion, on ne connaît absolument rien sur rien. Et après 6 mois, effectivement, de pratique et d'expérience professionnelle, eh bien, j'en ai appris plus qu'en 5 ans d'études.
Alors, cher Pierre Himpler, on va continuer, on va rentrer dans le vif de la profession juste après la pause musicale. Il y avait deux morceaux, je vous laisse un peu nous expliquer ce que vous avez choisi, par quoi on commence et pourquoi vous les avez choisis.
Alors, j'ai choisi Case Suite. Le titre « Keep it coming ». Alors, c'est pour moi un chanteur exceptionnel, trop méconnu en Europe, qui est adulé aux États-Unis, surtout par la communauté noire, qui est pour moi du niveau d'un Lionel Richie. Quelle est cette musique? C'est de l'R&B, du funk, de la new jack. C'est ce qui a suivi, en fait, c'est l'évolution du disco. Et aujourd'hui, c'est une musique qui redevient très, très à la mode, même dans la chanson française. Moi, je vois plein de morceaux qui s'inspirent de cette musique-là. Et on voit d'ailleurs que le disco revient fort à la mode aujourd'hui. Et c'est une musique que j'aime parce qu'elle est festive, elle est agréable à danser. Parce que, par exemple, ce titre que je vous ai donné, sur l'album, vous l'avez en musique très rythmée sur lequel vous pouvez danser. Généralement, vous le dansez avec une partenaire, mais vous pouvez le danser en slow également.
Donc, et vous, je parie que vous choisissez le slow.
Vous avez tout compris.
Bon, allez, on va se retrouver d'ici quelques instants. C'est Mythe de Boss. Alors, pour les auditeurs qui sont sur les réseaux sociaux, vous inquiétez pas, il n'y a pas de son, c'est quelques minutes. C'est pour une histoire de droit d'auteur. Et pour ceux qui nous écoutent à la radio, bien sûr, vous avez le plaisir d'avoir la musique. On se retrouve d'ici quelques instants. Ben voilà, on reprend Mythe de Boss, la deuxième partie, avec toujours notre invité. Alors Pierre Impler, vous nous avez dit hors antenne que finalement, est-ce que je pourrais quand même revenir sur la famille, sur le parcours de la famille?
Oui, je le trouve intéressant, voire même émouvant. Donc en fait, du côté paternel, nous venons de Vienne. Donc, ce côté était juif. Mon arrière-grand-père était un grand homme d'affaires viennois, très fortuné, qui a très bien réussi. Il y a eu l'Anschluss, réunification de l'Allemagne à l'Autriche. Du jour au lendemain, on nous a tout pris. Il a encore eu suffisamment de moyens pour faire fuir ma grand-mère en Belgique et mon grand-oncle en Chine, à Shanghai. Il n'y avait pas 36 000 pays qui accueillaient les juifs à l'époque.
Shanghai.
Shanghai était une terre d'accueil pour les juifs, figurez-vous. ce que je ne savais pas non plus, mais Shanghai a accueilli beaucoup de Juifs, et la Belgique également. Au contraire de la France ou des États-Unis, je vous parle de ça en 36, 37, 38. Ma grand-mère épouse mon grand-père en Belgique, ils prennent le dernier bateau à Anvers à destination de l'Angola juste avant l'arrivée des Allemands, donc plus ou moins en 39. Mon père est né en Angola, sa langue maternelle est le portugais, je vous rassure, il a tout oublié entre-temps. Après la guerre, ils reviennent en Belgique. Et mon grand-oncle épouse une des princesses de Shanghai, fait fortune dans le textile, et puis perd à nouveau tout parce qu'il y a la révolution chinoise, et revient à Vienne 20 ans plus tard. Et bon, moi j'ai toujours été très, très intéressé par l'histoire de cette famille. Il y avait encore beaucoup de zones d'ombre, donc j'essaie d'interroger ma grand-mère qui, quand vous lui posez une question, elle vous répondait par une autre, qui était d'ailleurs bien connue de la communauté puisqu'elle était professeure de bridge pendant, je pense, 30 ans. Hermine Himpler Neufeld, peut-être que certains auditeurs s'en souviendront, à Anvers et à Bruxelles. C'était le professeur de bridge de la communauté. Et je connaissais pas le fin mot de l'histoire, et donc j'ai été avec mon épouse à Vienne voir mon grand-oncle pour en savoir un tout petit peu plus sur l'histoire de la famille. Donc son frère et lui également.
Ça vous a quoi, retourné, bouleversé? Vous sentiez qu'il y avait
Il y avait quelque chose à découvrir qu'on ne savait pas et que j'ai découvert. Ouais. Et donc mon grand-oncle m'a pas fort aidé non plus, mais là j'ai rencontré un cousin qui s'appelle Johnny Moser, qui est le plus grand historien de la Shoah d'Autriche, et qui m'a dit, tu as quel hôtel? Je suis à l'Intercontinental. Bah, écoute, j'arrive, et il est arrivé avec un livre sur l'histoire de notre famille. Et là, j'ai découvert plein de choses, et notamment le fait que mon arrière-grand-père a été arrêté par les Allemands après avoir réussi à faire fuir sa fille et son fils, et déporté à Auschwitz, où il est mort le 13 mars 1943. Ce que je ne savais pas, et je ne suis même pas sûr que ma grand-mère, qui était décédée à l'époque, quand je l'ai découvert, le savait. Résultat des courses, le prochain voyage s'imposait, Cracovie, et puis Auschwitz, où j'ai eu effectivement toutes les confirmations. Donc voilà. Mais moi, je suis chrétien, ma mère est belge, ma mère est chrétienne, mais j'ai ces origines-là qui font que tout ce qui concerne la communauté juive ou Israël me touche particulièrement. Voilà.
Belle histoire, hein, Olivier. Belle histoire.
Ouais, si dans tous les cas, de retrouver ses racines, c'est ô combien important de savoir d'où on vient, savoir qui on est.
Et donc, cet héritage de la Shoah est transgénérationnel.
Absolument. Absolument.
Et même si vous ne l'avez pas vécu, vous
le sentez.
Vous portez ce fardeau.
Exactement.
On va repartir maintenant dans votre métier, dans votre profession.
Puisque vous parlez d'enquête et d'investigation, on part tout naturellement sur le métier de pénaliste. Donc, le métier de pénaliste, d'abord, c'est quoi en fait? C'est défendre les personnes qui sont accusées d'avoir commis des délits qui sont qualifiés de
ou des crimes. C'est pas seulement défendre
grave.
C'est pas seulement défendre des prévenus, donc des personnes qui sont accusées effectivement de crimes ou de délits, mais c'est également défendre des parties civiles. Mm-hmm. Vous avez les deux côtés. Vous pouvez être avocat de la défense.
Vous faites les deux côtés?
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que vous préférez?
Honnêtement,
toujours avec un avocat en plus.
Je préfère défendre un inculpé.
C'est quoi?
C'est facile.
Oui, c'est vrai. C'est plus simple.
Plus facile. Comment dirais-je? La charge de la preuve appartient au ministère public ou éventuellement à la partie civile si elle vous attaque. Donc, on est déjà dans une situation qui est plutôt confortable. C'est la présomption d'innocence.
Donc on peut expliquer ça pour tout le monde en Belgique. Si quelqu'un doit prouver quelque chose, enfin c'est celui qui accuse qui doit prouver quelque chose.
Bien entendu.
À part l'État belge quand il s'agit de fisc. C'est ça, hein? Il faut que le contribuable se défende lui-même.
On peut résumer ça comme ça, effectivement. Et donc effectivement, c'est le ministère public qui a la charge de la preuve. Donc vous êtes dans une position qui est déjà un tout petit peu plus confortable. Et puis, vous pouvez avoir beaucoup d'affection avec vos clients. Tout le monde n'a pas eu les mêmes chances au départ. Des gens qui ont eu un vécu difficile, qui ont fait des erreurs. Tout le monde a droit à l'erreur. Et effectivement, quand vous avez un beau résultat pour un client qui en vaut la peine, qui est reconnaissant, et qui surtout ne recommence plus, bah, c'est agréable d'avoir évité quelques
erreurs. Est-ce que ça pourrait vous donner aussi comme ça d'avoir un cas quelque part de mauvaise conscience, de se dire, tiens, je le défends, mais il a quand même l'air d'être un bon coupable finalement, de se dire bon, c'est mon métier, je vais y aller, je vais donner tout ce que je peux, mais je suis pas à l'aise dans mes baskets.
Bah écoutez, si je ne défendais que des innocents, je crois que j'aurais fermé boutique depuis longtemps. Mmh. Ceci étant dit, il faut voir la manière dont vous le défendez, parce que vous défendez un coupable qui a fait des choses graves, que vous devez le défendre n'importe comment en contestant
des
faits incontestables. Et puis vous avez le droit également de refuser de défendre quelqu'un. Moi, en général, je refuse de défendre les pédophiles et les terroristes. Voilà, c'est un...
Vous avez déjà été confronté à ce genre de clients ?
Oui, tout à fait. Oui,
donc les gens viennent chez vous ?
À plusieurs reprises. En matière de terrorisme, j'ai systématiquement refusé. Voilà.
Et alors, c'est comme dans les films.
Oui, excusez-moi.
C'est comme dans les films, on dit, mais dites-nous, vous êtes coupable ou vous n'êtes pas coupable. Vous avez cet élément-là ou cette discussion-là.
C'est la chose que je demande à mon client. Je dis, est-ce que vous l'avez fait ou vous l'avez pas fait? Je dois le savoir parce que si vous me dites la vérité, je vais bien vous défendre. Si vous commencez à me mentir, vous commencez à mentir à votre propre avocat, je vais mal vous défendre et je risque de diriger l'instruction.
C'est dur ce moment-là.
Qui va vous être défavorable.
Est-ce que parfois c'est dur pour les prévenus? C'est-à-dire que pour les gens qui vous regardent, ils doivent se mettre à table, ils doivent accepter de se livrer quelque part?
Oui, pour certains, c'est pas facile. Maintenant, quand c'est un client que vous connaissez bien, que vous avez défendu dans plusieurs affaires, c'est évidemment beaucoup plus facile parce qu'il y a une confiance entre vous et lui et il vous dit en général la vérité.
Et c'est marrant parce qu'on
comprend que c'est son intérêt.
Et on pourrait quand même dire, on pourrait quand même imaginer que justement dans cette logique d'avocat, on dirait, moi je veux défendre la veuve et l'orphelin, c'est plutôt la victime de quelqu'un qui a été plus.
Je suis plus à l'aise dans l'autre rôle, mais. C'est avec beaucoup de plaisir, d'enthousiasme, que je défends également les parties civiles.
Sans jamais avoir eu des cas de conscience, alors parce que parfois, on peut, en tant que pénaliste, avoir un cas de conscience, on se dit « qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai trop bien fait mon boulot », entre guillemets.
Ça peut arriver, bien entendu. Mmh. Bien sûr, ça arrive souvent, mais je ne suis pas un juge. Je suis un avocat, je suis là pour, défendre quelqu'un. Je vais vous donner un exemple qui peut peut-être vous paraître ridicule, mais c'est comme si un médecin refusait de soigner un cancéreux qui a pris tous les risques, qui a fumé toute sa vie, qui a bu toute sa vie. Il est un peu responsable de sa situation et le médecin devrait refuser de le soigner. C'est un exemple que je peux vous donner à titre de comparaison. C'est un peu la même problématique.
Pierre Impler, alors est-ce que, vous répondez, quand on est avocat pénaliste, on gagne mieux sa vie, on gagne moins bien sa vie que quand on est avocat d'affaires? Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est un tarif horaire, on est payé au résultat? Ou comment c'est évalué
Ça dépend quels avocats. Il y a des avocats qui gagnent très bien leur vie.
En étant pénaliste?
Oui, bien entendu. Mmh. D'autres qui gagnent moins bien leur vie. Il y a énormément de concurrence aujourd'hui. Beaucoup de jeunes avocats qui n'ont pas facile, d'autant plus que les règles déontologiques, toutes les règles qui sont imposées aux avocats sont de plus en plus strictes. Donc c'est un métier qui est devenu de plus en plus difficile. Et quand moi j'ai commencé ma carrière, nous étions peut-être une bonne vingtaine ou une trentaine de pénalistes. Aujourd'hui, peut-être 100, 200, 250, je ne sais pas.
Il y a des choses qui ont changé dans la manière de traiter le droit entre le moment où vous avez commencé et aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle a été l'influence de l'intelligence artificielle? Alors vous avez parlé tout à l'heure, quand on faisait votre parcours, des syllabus que vous avez bêtement dû étudier et que vous avez oublié deux semaines après. Est-ce qu'aujourd'hui, on regarde les choses autrement avec ChatGPT et tout ce qui est là, tout ce qui arrive?
Avec ChatGPT, non, je pense pas.
Ouais, j'imagine qu'il y a des programmes peut-être spécialisés.
Vous avez des logiciels, effectivement.
Ouais, c'est ça.
Qui vous aident, et notamment au niveau de la doctrine, la jurisprudence. Mmh. Et vous gagnez énormément de temps en utilisant ces logiciels. Ça, c'est une évidence. Maintenant, pour le métier spécifique d'avocat pénaliste, je pense que l'intelligence émotionnelle ne pourra jamais remplacer ce métier. Parce que le côté émotionnel reste très important.
L'intelligence artificielle ne remplacera pas. Vous avez dit l'intelligence émotionnelle.
L'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer le métier d'avocat pénaliste. Mm-hmm. Parce que justement, le côté émotionnel est très important et primordial.
Et puis, il y a une stratégie à mettre en œuvre. Il y a une vraie stratégie quand même de défense.
Bien entendu, il y a une stratégie, mais il y a également un certain talent oratoire à avoir, et je pense qu'effectivement ça joue encore un rôle très important, même si la procédure est importante également.
Il faut convaincre, en fait. En tant que pénaliste, on doit convaincre.
Bien sûr, et jouer sur l'émotionnel.
C'est quelque chose
et que savoir vous... également dédramatiser une situation.
C'est quelque chose que vous faites. Vous jouez avec ça.
J'essaie.
Oui.
J'essaie, bien sûr.
On commence prépare à ça parce que je pense que vous n'êtes pas formé non plus à ça à l'université.
L'expérience.
Oui, l'expérience. Mais vous ne savez pas que vous ne faites pas des cours de théâtre ou des.
Non,
il y a des avocats qui sont aussi acteurs.
On prépare ses théories également.
Et comment on gère cette pression, justement, ça doit être des gros moments d'émotion, se retrouver au tribunal devant une chambre avec un grand jury et c'est quoi mentalement? On fait du yoga, comment on le gère? On y va comment le matin? Il faut les avoir bien accrochés, comme on dit.
La plupart des affaires, comment dirais-je, se font sans jury, avec un président, un procureur, un greffier. Vous n'avez que les procès d'assises, comment dirais-je, qui se font avec jury. Enfin bon, il y a du public, les audiences sont au public. Ouais. Donc il faut effectivement savoir gérer son stress. Et vous avez des gens qui sont meilleurs en période de stress et d'autres qui sont beaucoup moins bons, qui perdent leurs moyens. Bon, il faut effectivement essayer de se sublimer lors d'un procès important et avoir une excellente gestion du stress, ça c'est évident. Parce qu'on ne peut pas, si on est un avocat un tout petit peu responsable, ne pas penser aux conséquences d'une décision judiciaire pour son client. Parfois, ça se joue à peu de choses.
On parle beaucoup ces derniers temps justement de la Belgique aux nouvelles. Hein. Tout ce qui se passe en Belgique au niveau du narcotrafic, comme beaucoup pour l'instant, avec des gros problèmes sur Anvers, sur Bruxelles, des fusillades presque quotidiennes, je pense pour l'instant.
On sort justement d'un dossier de stup important, Sky ECC.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Votre lecture là-dessus, c'est quoi? La Belgique, on sait que c'est une plaque tournante, mais c'est pire qu'ailleurs. Et pourquoi c'est pire qu'ailleurs?
Alors, oui, c'est pire qu'ailleurs. Ça, c'est une certitude. C'est une plaque tournante. C'est un pays central. Très facile, comment dirais-je, de commettre un délit ou un crime en Belgique et d'en sortir. En quelques heures ou en une heure et demie, vous êtes en dehors de la Belgique. Vous avez le port d'Anvers, évidemment, où arrivent beaucoup de produits stupéfiants, beaucoup de drogues. Je crois qu'il y a eu un laxisme également pendant longtemps des tribunaux belges. Je tiens à dire qu'en matière de stupéfiants, ils sont devenus très sévères. Je vous dis, je sors de ce dossier et les peines requises allaient entre 13 et 5 ans ferme. C'est des peines extrêmement sévères et finalement, on a eu un jugement où les principaux les acteurs dans ce dossier ont reçu 10 ans de prison ferme alors qu'il n'y a eu aucun fait de violence. Donc, les peines sont sévères. Très sévère en matière de stupéfiants aujourd'hui en Belgique. Ça c'est clair et net.
Est-ce qu'on peut dire que la Belgique est un narco-État, comme on lit un peu dans la presse pour l'instant?
Narco-État, c'est beaucoup dire, mais disons qu'il y a beaucoup de bandes qui règnent à Bruxelles, à Anvers. Et c'est un vrai problème. C'est un fléau qu'on va devoir régler à un moment donné. On n'est pas mieux en France et on n'est pas mieux aux Pays-Bas, je vous rassure.
Et la justice est bien adaptée pour s'attaquer à ces problèmes, aux problèmes pénaux.
De mieux en
mieux. Oui.
Je pense que les moyens techniques qui sont à la disposition des inspecteurs de police, des enquêteurs, des magistrats instructeurs sont de plus en plus, comment dirais-je, pointus. Dans cette affaire SkyUCC, pourquoi on l'appelle SkyUCC justement? En fait, SkyUCC, c'est quoi? C'est un moyen de communication du style WhatsApp. Ouais. WhatsApp. Qu'on croyait
qui se prétendait chiffré et indéchiffrable.
Ouais, bon, comme tous, ils se présentent tous.
Voilà, et qui coûtait très cher. Et donc les trafiquants ont cru qu'ils pouvaient parler librement sur ce réseau.
Ils achetaient des téléphones SkyUCC qui étaient...
Tout à fait, et finalement c'est comme ça qu'on a pu démanteler tous les
Ce qui est assez dingue, parce que j'ai vu une émission il n'y a pas longtemps, c'est que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui autour de SkyUCC est uniquement lié sur quelques jours d'écoute en fait. Ils ont écouté ou ils ont récupéré des données pendant quelques jours avant que ce soit... leur accès coupé, un truc dans le genre. C'est assez impressionnant.
C'était donc, suffisant, comment dirais-je, pour construire un dossier.
Oui, des tonnes d'informations.
Oh, oui, et des tonnes de...
De personnes.
Des tonnes de kilos aussi.
Oui, c'est vrai.
des tonnes de drogue.
Pierre Implère, oui. on va peut-être parler aussi du deuxième volet de ce que vous aimez faire à part...
Le pénal.
À part le pénal, c'est le droit des étrangers. Mm-hmm. Comment ça vient? Ça veut dire quoi le droit des étrangers? C'est une manière de pouvoir régulariser les étrangers qui sont en Belgique et qui n'ont pas de papier. C'est ça le droit des étrangers?
C'est une partie du droit des étrangers, oui. C'est régulariser les personnes en situation illégale. C'est obtenir des visas pour des gens qui ne sont pas en situation illégale mais qui sont dans leur pays d'origine et qui désirent s'établir en Belgique à court terme ou à long terme. C'est le fait d'obtenir la nationalité belge pour des étrangers qui sont en situation légale en Belgique. Donc il y a plusieurs
volets.
Il y a plusieurs matières dans le droit des étrangers. Il y a plusieurs volets effectivement. Et c'est devenu tellement technique et compliqué que les avocats aujourd'hui se spécialisent dans certaines branches du droit des étrangers. Donc vous avez des avocats spécialisés dans le regroupement familial par exemple ou dans le droit de la nationalité. Donc c'est devenu extrêmement pointu.
Et vous êtes spécialisé dans quoi alors ?
Moi j'essaye d'être assez généraliste et je fais quasiment toutes les matières du droit des étrangers. Mmh. Okay, et quand c'est vraiment trop pointu, ben je demande l'aide d'un tout grand spécialiste pour une question que je n'arriverai pas à résoudre seul.
Mais comment vous êtes rentré là-dedans ? Parce que le droit pénal, on a compris, mais comment on rentre ? C'est quoi ? C'est aussi une rencontre d'une première personne qui vous dit, tiens, j'ai des ennuis, j'ai pas mes papiers ou j'ai besoin de ça, et vous lancez là-dedans comme ça un peu à tête baissée en se disant, bon, je vais y aller, voilà. C'est un peu comme ça que ça commence ?
Comme je vous l'expliquais, en 96, le régime du président Mobutu tombe. Mes amis congolais viennent en Belgique, ont besoin de papiers et me consultent. Et à partir de là, j'essaie de me spécialiser dans cette matière-là. Et puis quand vous faites beaucoup de droit pénal, il faut bien dire les choses. Vous avez quand même une grosse partie de votre clientèle qui est soit étrangère ou d'origine étrangère. C'est une réalité dont personne ne parle, mais c'est une réalité.
C'est ça reste une réalité. On a peur d'être taxé de raciste ou de quoi que ce soit quand on dit ça, mais
c'est une réalité.
C'est vrai.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Belges de souche qui ne commettent pas des délits ou des crimes en Belgique. Mais enfin, vous avez quand même beaucoup d'étrangers qui sont impliqués dans des affaires pénales. Ça, c'est une réalité incontestable.
Quelle est votre vue aujourd'hui justement sur la politique migratoire en Belgique, vous qui êtes au cœur de dans l'œil du cyclone?
Je pense qu'on a tout faux. Je pense qu'on a une politique migratoire tout à fait déplorable. Des frontières qui n'en sont pas. Donc,
mais ça, c'est lié à l'Europe ou bien la Belgique en particulier, c'est l'Europe plus généralement?
La Belgique pourrait prendre des mesures à titre personnel. Mais c'est principalement, vous avez raison de le souligner, dû aux différents règlements européens et au pacte migratoire également. Qui a été signé il y a quelques années. Donc une Europe sans frontières ou avec des frontières tout à fait perméables, c'est le premier problème. Second problème, vous avez des étrangers qui sont ici depuis des années, qui ne sont pas expulsés mais qui ne sont pas régularisés non plus. Et vous avez beaucoup d'étrangers qui méritent d'être régularisés parce qu'ils sont parfaitement intégrés en Belgique, parce qu'ils ont la possibilité de travailler, parce qu'ils ont des enfants qui sont nés en Belgique, qui ne connaissent même pas leur pays d'origine, qui parlent parfaitement une des langues nationales, et qui pourraient apporter un vrai plus au pays. On n'est pas sans savoir qu'on a quand même de gros problèmes de main-d'œuvre en Belgique. Il y a beaucoup de métiers en pénurie, on aurait besoin de ces gens-là. Or, on ne régularise pas les bonnes personnes, malheureusement. Il y a beaucoup de régularisation, beaucoup trop de régularisation, grâce au regroupement familial, et trop peu de régularisation par rapport au travail.
Les choix, ils sont faits comme ça. C'est ça le problème principal. C'est parce qu'on régularise les situations familiales et pas le travail. C'est ça le vrai problème.
C'est un droit.
C'est-à-dire que je pense qu'il y a des quotas. Et les quotas aujourd'hui sont dépassés avec les réfugiés ukrainiens qui prennent peut-être la place d'autres nationalités. Et à juste titre, je pense que ces gens-là, on doit les protéger. Ils sont en danger dans leur pays, mais d'autres nationalités payent le prix fort. Premier problème actuel. Second problème, effectivement, il y a des abus en matière de regroupement familial et pas suffisamment de régularisation sur base de l'intégration ou du travail. Et alors, pas de critères objectifs. Ça, c'est un gros problème également. C'est-à-dire que je vais introduire deux dossiers pour deux familles différentes ou deux personnes différentes avec les mêmes critères, un va passer, l'autre ne va pas passer. Ne me demandez pas pourquoi, je suis incapable de vous répondre, c'est complètement subjectif. Donc il n'y a pas de critères objectifs de régularisation. On en a eu en 99, avec une régularisation globale des étrangers sans papier, et les choses étaient claires. Les critères étaient extrêmement clairs. On l'a eu en 2009 également. On espérait l'avoir en 2019. On n'avait pas de gouvernement. On ne l'a pas eu. Puis il y a eu la crise du Covid, puis la crise ukrainienne. Bref, ça fait presque 15 ans aujourd'hui qu'il n'y a pas de régularisation globale des étrangers en situation illégale. Et c'est un problème parce qu'on ne peut pas laisser ces gens dans la rue. Ils travaillent au noir. Ils sont obligés. Ou ils commettent des crimes et des délits pour survivre. Alors, deux choses l'une. Soit on les régularise, soit on les expulse.
Oui, c'est ça.
Faut,
mais
faut
donc c'est l'un ou l'autre.
À un moment donné. Et on fait ni l'un ni l'autre.
Oui. Donc que ce soit la régularisation des gens qui devraient l'être ou l'expulsion de gens qui devraient aussi être expulsés, il y a eu beaucoup de aussi beaucoup de presse là-dessus en France dernièrement sur les, la logique des expulsions et expulsions.
On est dans la même situation.
C'est la même chose en Belgique.
Écoutez, je suis presque content quand un client reçoit une décision négative avec simplement un ordre de quitter le territoire. Parce que je sais qu'il ne sera jamais appliqué.
Oui, ça veut dire.
Et il n'y a aucune conséquence pour lui parce que ça me permet de réintroduire une nouvelle procédure par la suite. Ce qui est plus embêtant, c'est quand il reçoit une interdiction d'entrée. Pendant 2, 3 ou 4 ans, là, je ne sais plus rien faire. Là, je suis complètement bloqué. Je ne sais plus introduire de procédure.
Vous avez des moments comme ça dans votre carrière, justement, du droit des étrangers qui ont été gratifiants pour
oui,
vous.
Beaucoup, non,
vous
non.
Avez des.
Ah, bah, écoutez.
La sensibilité, des belles choses qui sont arrivées à.
C'est amusant que vous me posiez la question parce que j'ai justement été dîner, j'espère qu'il m'écoute aujourd'hui, avec un client albanais que j'ai régularisé il y a une quinzaine d'années, qui est parti de rien, scratch, en Belgique. Il n'avait pas un bal. Et. Après cette régularisation, il a monté son affaire, il est devenu entrepreneur. Et il cartonne, il a 50 employés aujourd'hui. Je le proposais d'ailleurs comme membre YPO à Pascal Gerken. 50 employés, très belle réussite, un gros chiffre d'affaires. Je suis très heureux pour lui. Et ça, c'est évidemment une grosse satisfaction. Quand on a un exemple comme ça, c'est magnifique.
Ouais, c'est une vraie intégration, vrai ascenseur social, une vraie réussite d'intégration en Belgique. Et
c'est les plus grosses satisfactions quand vous régularisez quelqu'un qui le mérite, effectivement, parce que vous changez sa vie. Et ici, en l'occurrence, lui, on lui a changé sa vie, mais il a changé la vie de 50 de ses employés.
Que ce soit au niveau du pénal ou au niveau du droit des étrangers, quelles sont les grandes caractéristiques qui font un grand avocat ou un bon avocat?
Bonne question. D'abord, l'honnêteté. Il faut être honnête. Il faut être honnête avant tout avec son client. Il faut lui dire la vérité. Il ne faut pas lui promettre des choses qui n'arriveront jamais. Parfois, l'erreur, comment dirais-je, qu'ont certains avocats pénalistes au début de leur carrière pour essayer d'avoir un client. On dit, écoute, tu me payes autant et tu es libéré dans un mois ou deux. Non, il faut rester correct et honnête et prudent. Ça, c'est peut-être le premier des conseils que je peux donner. Être toujours à la page des jurisprudences.
Vous le faites, ça?
Bien entendu.
Et comment on fait? Comment vous êtes? Il faut étudier, en fait, finalement.
Oui, il faut se mettre à jour à tout moment. Bien entendu.
Il y a quoi? Il
faut lire. Il faut beaucoup lire.
Il y a des séminaires, des choses comme ça.
Il y a beaucoup de séminaires qui sont organisés par le barreau. Vous avez des revues spécifiques également. Et puis vous parlez avec vos confrères qui va vous expliquer, tiens, j'ai eu telle décision dans tel dossier, ça pourrait faire jurisprudence. Eh bien, vous en profitez pour avoir la copie de cette décision, de cet arrêt, et vous l'utilisez. Donc il faut être à la page.
Donc honnête et à la page.
Travailleur. Disponible. Très important d'être disponible.
Mmh. Il y a des changements, Pierre Himpler, que vous aimeriez voir dans votre métier d'avocat pour améliorer le travail. Il y a des choses qui vous embêtent, qui sont pas bien faites, que vous préférez. Vous dites, tiens, aux États-Unis, ça c'est bien, pourquoi pas ça ici? Et qu'est-ce qui vous dérange finalement dans ce que vous faites? Vous vous dites, tiens, je devrais pousser peut-être pour changer certaines choses. J'aurais envie d'améliorer, je vois pas les choses comme ça.
On a de plus en plus d'obligations déontologiques qui sont particulièrement lourdes, notamment en matière de loi sur le blanchiment. Donc, je fais allusion à la législation sur la prévention du blanchiment, où les avocats sont presque obligés de devoir dénoncer leurs clients.
Ouais.
Bon, ça, je pense que c'est une extrême.
Comme aux États-Unis, ça.
C'est une limite.
C'est une atteinte au droit de la défense. Ce n'est pas normal. Donc, il y a des choses à régler. On a de plus en plus, effectivement, d'obligations au niveau des comptes tiers qui pourraient être évitables. Voilà. Des embarras administratifs.
Pour le reste, on parle souvent de la lenteur de la justice belge.
La lenteur,
on a envie de dire.
Okay. Quand vous êtes avocat de la défense, ça vous arrange bien.
Ouais.
Vous savez que quand vous faites appel,
Ouais, sauf si vous êtes en prison.
Ça peut prendre des années. Oui, mais justement, parce que la justice est lente et votre client est en prison et que l'affaire est remise, ça vous donne, comment dirais-je, le meilleur des moyens pour obtenir sa libération. C'est que l'affaire n'a pas pu être prise.
Ouais, mais en attendant, il reste peut-être.
Des avocats de la défense ou du client, et vous obtenez sa libération assez facilement grâce justement à ces arriérés, à cette lenteur. Mais quand vous êtes évidemment de l'autre côté de la barre et que vous êtes parti civil et que vous devez attendre 3, 4, 5 ans avant d'avoir un jugement, c'est plus délicat. Mais c'est pas normal, effectivement.
C'est quand même une machine. On a parfois l'impression d'être devant une machine préhistorique, hein, quand on est devant la justice belge.
Il n'y a pas suffisamment de magistrats, c'est ça le problème.
Mais il n'y a pas que les magistrats, il y a aussi tout ce qui va avec, de la paperasserie, l'ensemble, la procédure, quoi. La procédure, elle semble être un peu, aujourd'hui, d'un autre temps, non ?
Il en faut une, en tous les cas. Il faut une procédure, c'est le seul moyen de respecter les droits.
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore une garantie
d'avoir... Du justiciable.
Voilà, c'est une garantie encore, toute cette procédure.
Ça reste une garantie, maintenant je suis d'accord avec vous, on pourrait la simplifier, ça c'est sûr et certain.
Donc c'est une
ça,
question.
C'est clair et net, mais pour moi, le principal problème, c'est le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de magistrats. Et ça pose de
l'informatisation, problèmes. On a parlé de l'informatisation aussi, la digitalisation.
On commence.
Doucement.
On commence très, très doucement. Avec l'informatisation de la justice.
Ouais. Quel conseil, Pierre Impler, vous donneriez à un jeune avocat aujourd'hui si vous aviez un enfant qui devrait commencer terminer des études d'avocat, vous conseilleriez?
Si c'était mon enfant, si c'était mon fils, je pense pas, non. Je pense pas que je lui conseille d'être avocat.
Non. Pourquoi?
Parce qu'il y a une concurrence terrible. C'est un métier qui est très difficile, extrêmement stressant, à moins qu'il soit véritablement passionné. Mais je lui conseillerais de faire ce qu'il aime. Ouais. Et s'il est déjà avocat et qu'il veut absolument le faire, qu'il choisisse la matière qui lui plaît le plus et qu'il touche un peu à tout. Qu'il essaye d'être, dans un premier temps, généraliste, qu'il essaye de toucher à toutes les matières et que finalement, il essaye de se spécialiser dans une ou deux matières maximum. Et des matières qui lui plaisent vraiment et dans lesquelles il excelle.
Est-ce qu'il y a des endroits en dehors de la Belgique ou en dehors de l'Europe où le métier d'avocat a plus évolué ou mieux évolué que
nous? J'ai une petite anecdote à... J'ai fait énormément de dossiers en matière d'escroquerie. C'est en droit pénal une des matières dans lesquelles je m'étais vraiment spécialisé.
Moi, vous devriez quand même écrire un livre un jour, parce vous avez aussi quand même des chouettes histoires à raconter, hein, beaucoup de chouettes histoires à raconter.
Oui, le problème, c'est que c'est quand même tenu par le secret professionnel, oui, et c'est moins drôle quand on ne cite pas les noms. Mais c'est ça. Malheureusement, je ne peux pas le faire. Pour répondre à votre question, et pour rebondir également sur le problème d'arriéré judiciaire en Belgique, je défends un client à Lille, dans une matière d'escroquerie, et je pars avec lui un peu avec la fleur au fusil, parce que c'est l'audience d'introduction, étant persuadé que on va remettre cette affaire au calende grec, comme c'est le cas systématiquement en Belgique. Je dis, on va avoir une remise à 3, 4, 6 mois, 1 an peut-être, pas de souci. Donc j'arrive à Lille, en expliquant que je viens d'être consulté, que je n'ai pas consulté le dossier, donc je demande une remise à moyenne échéance. Et le président, très agréable, me dit, écoutez, pas comme ça que ça se passe ici, maître. Il est quelle heure? Il est 14h, le dossier est à votre disposition, je vous donne 2 heures pour l'examiner, préparer votre défense, et je vous écouterai avec beaucoup de plaisir à 16h. J'étais vraiment surpris, j'ai pas eu le choix, j'ai étudié le dossier, j'ai préparé la défense du client en 2 heures de temps, j'ai plaidé, je me disais... Je vais recevoir le jugement dans 1 mois, comme c'est le cas en Belgique. Il dit non, vous revenez dans 1 heure, vous avez le jugement directement. Et donc, on est arrivé le même jour à l'audience d'introduction, on est reparti avec notre jugement.
Incroyable.
Qui, heureusement, était bon. Mais pour vous dire que c'est impossible en Belgique, quelque chose comme ça.
Est-ce que vous avez déjà eu peur de certains de vos clients?
Oui.
Oui, peur de vous planter, entre guillemets, ou peur de leur réaction? Peur de quoi? Ou peur de qui ils sont?
De tout, peur de la réaction. J'ai eu un client albanais qui était quelqu'un de dangereux, voilà, et qui me demande d'intervenir pour un de ses amis. Un dossier vraiment compliqué, en plus à la dernière minute. Je jette un coup d'œil au dossier, je me rends compte que j'aurai beaucoup d'heures de travail dans ce dossier. Je dis je peux m'en occuper, mais voilà, c'est autant. Je dis au client, voilà, ça sera autant. Il dit, non, vous arrangez avec le client qui, avec l'ami qui m'a recommandé chez vous. Bon, bref. Je dis, non, écoutez, monsieur, ça ne va pas. Vous êtes mon client. Je n'ai pas à avoir des arrangements avec la personne qui vous a recommandé. Donc, soit vous me payez, soit je ne serai pas là. Finalement, le client ne m'a pas payé. J'ai refusé d'y aller. Et le client albanais qui m'avait recommandé était très mécontent et m'a clairement menacé.
Ah ouais.
Tu m'as manqué de respect, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu aurais pu nous faire confiance, on aurait payé tes honoraires, alors que déjà déontologiquement c'était un problème. Donc oui, j'ai eu...
Et dans ces cas-là, on discute, on s'arrange, quoi.
Oui, finalement, ça s'est arrangé.
Oui.
Quelques mois après.
Pierre Rimpler,
c'est toujours stressant.
C'est toujours tendu. Ouais.
On va passer aux questions de la fin. Hein. On vous avait dit que ça passait vite. Il nous reste encore quelques minutes. C'est quoi la chose? Vous répondez rapidement si vous pouvez en tous les cas. Mmh. On sait que les avocats, c'est pas toujours évident. C'est quoi la chose la plus folle que vous avez fait dans votre vie?
Professionnel ou privé?
Comme vous voulez. C'est vous qui dites.
Il y en a beaucoup là.
C'est vous qui dites. C'est vous qui dites.
La plus folle.
La plus folle.
Quelqu'un d'assez prudent.
Ah, si vous voulez, vous dites je passe. Hein. On reviendra dessus tout à l'heure.
Je passe.
Allez, une phrase que vous mettez souvent en avant, une maxime, c'est une question qu'on pose tout le temps aussi à nos invités.
Ouais. Alors, laissez les fantasmes nourrir les légendes. Et je crois que c'est une maxime que vous pourriez ressortir à certains antisémites qui considèrent ou qui expliquent que les juifs dominent le monde, contrôlent les médias, contrôlent la finance internationale, contrôlent le monde scientifique. Mmh. Laissez les fantasmes nourrir les légendes.
Vous avez un don. Quelque chose qui fait que vous êtes meilleur que les autres et que là où vous allez, vous êtes bon. C'est quoi votre don, votre facilité?
J'étais très bon au tennis. Je crois que j'aurais pu être un grand joueur.
Mais pour être avocat, il faut d'autres dons, je suppose.
La psychologie. Mmh. Peut-être un tout petit peu d'intelligence émotionnelle. Je le dis de manière humble, mais je pense que c'est très important. Mmh. Savoir sentir les choses, savoir si on vous dit la vérité ou pas.
Est-ce qu'en regardant votre passé, vous êtes content déjà quand si vous retournez sur ce que vous avez fait de votre parcours, vous dites je m'en suis pas si mal débrouillé,
oui,
là où je suis, c'est bien.
Oui, c'est certainement, ça veut pas dire que j'ai pas de regrets. Oui, il y a des choses que j'aurais fait certainement différemment, beaucoup de choses. Mmh. Énormément d'erreurs que je regrette.
Qu'est-ce que vous
beaucoup prend... de gens disent je ne regrette rien, c'est pas mon cas. Moi, y a des,
Charles Aznavour.
C'est des erreurs que j'ai faites que j'aurais pu ne pas faire et que je regrette sincèrement, bien entendu.
Le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant, Pierre Rimpler?
Footballeur.
Footballeur, c'est le seul sport, hein, vous, on vous sent
très. Je suis un footballique. Je peux vous enchaîner 3-4 matchs de foot sans aucun problème.
Vous avez un modèle, vous avez quelqu'un, un avocat que vous avez dit celui-là, il m'a bien inspiré, c'est quelqu'un encore aujourd'hui que je regarde et que j'aime lire les plaidoiries ou quelqu'un qui m'inspire vraiment.
Je dirais qu'il y en a trois, il y a mon père bien entendu, qui est un exemple pour moi, qui était un grand avocat, qui était un des avocats emblématiques du Triangle d'ailleurs, à l'époque, à la grande époque du Triangle. Ça c'est le numéro 1, Danis Protez, incontestablement, on en a parlé. Et peut-être Dupond-Moretti que j'ai rencontré dans une affaire, qui est un personnage hors du commun.
Vous aimeriez,
qui m'a impressionné.
Vous aimeriez comme
très sympathique.
Vous aimeriez comme lui un jour peut-être dévier, aller vers la politique. On dit que le droit mène à tout d'ailleurs en plus. Hein. C'est quelque chose qui pourrait vous inspirer, vous intéresser un jour de changer un peu de profession.
J'aime la politique, mais je pense que je n'en aurais pas le courage, pour être honnête.
Qu'est-ce qui vous fait lever le matin, Pierre Rimpler?
La joie de vivre.
De la pêche tous les matins, content.
Oui, franchement.
Le meilleur moment de votre journée?
Quand je ferme mon agenda, qui est ici devant moi, après une journée fructueuse, après avoir bien travaillé. Et quand je n'ai pas bien travaillé une journée, parce que je n'étais pas en forme, ou que je n'avais pas la pêche, parce que ça peut arriver, bien entendu, j'ai pas trop le moral.
Allez,
c'était une journée perdue.
Une avant-dernière, mais très rapidement, je serai bien sûr la dernière à Serge. Vous avez une lampe d'Aladin, je vous l'offre, on vous l'a, c'est Serge qui vous l'amène d'ailleurs. Hein. De là d'où il vient, vous avez 3 vœux à exaucer.
Déjà un, c'est difficile, mais 3. Mm-hmm. 3 vœux à exaucer. Que je sois en parfaite santé et que ma famille également et qu'on puisse vivre à 120 le plus vieux possible. C'est un vœu très égoïste.
On a dit 3 vœux rapides, hein, Pierre.
Oui, ok. banalité, la paix dans le monde, mm-hmm. Ouais, et particulièrement en Israël. Et que l'équipe nationale belge gagne la Coupe du Monde.
Ah ben voilà. Ça, allez, ça, Serge, en quelques secondes, vraiment la dernière question et la dernière réponse, encore
alors,
beaucoup plus rapidement.
Quel est le conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne à 20 ans, qu'on ne vous a pas donné?
On m'a donné tous les bons conseils.
Ah ben voilà.
Ça sera sur cette parole de sage qu'on va se quitter.
On me les a donnés.
Merci beaucoup, Pierre Impler, d'avoir été à cette place d'invité. C'est très intéressant. Hein. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Mythe de Boss. D'ici quelques instants, vous allez retrouver Blaise van der Linden pour le Grand Journal. Et on se quitte avec Rock With You, votre deuxième choix.
Exact.
Michael ?
Ah oui.
Ah, on peut pas. Voilà, on peut pas se quitter sans lui. Et juste après l'émission de la Brit, et puis on aura les mots d'Anouk également. Et demain matin, à partir de 7h, on retrouve Liz Ben-Kemoun pour la matinale de Radio Judaïka et toute son équipe. Passez une excellente soirée à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine.